France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
De l'histoire, une histoire, un conte, une fable, une chronique, des légendes. Le mot saga n'est pas un mot univoque. Saga légendaire, saga familiale, saga de chevalerie, saga islandaise en tout cas, étudiée dans La matinée des autres qui vient. Saga islandaise au style réaliste, avant tout avec toutes les qualités du dynamisme, de la concision et un certain type d'humour. Pas de merveilleux au sens médiéval de nos chansons de gestes. Rien d'invraisemblable, rien de fabuleux. Qu'est-ce donc qu'une saga islandaise? Réponse était donnée sur France Culture le 18 avril 1978.
La matinée des autres. Les sagas islandaises par Régis Boyer, professeur de civilisation scandinave à Paris 4. Maurice Gravier, professeur de langue et de littérature scandinave à Paris 4, directeur de l'Institut d'études scandinaves. Einar Mao Jonsson, lecteur d'islandais à Paris 4.
Nous abordons aujourd'hui l'étude d'un sujet très vaste qui nécessiterait en fait de longues séances de discussion. Un sujet qui intéresse tout le nord scandinave ancien, mais beaucoup plus particulièrement l'Islande médiévale, à savoir l'étude des sagas islandaises. Genre difficile, genre très mal connu chez nous en France, genre cependant qui mériterait que l'on s'y attardât avec soin, car il est aussi simple de dire qu'avec les sagas islandaises, nous tenons sans aucun doute un des grands chefs-d'œuvre de la littérature médiévale dans son ensemble, et ce n'est pas là une hyperbole. Néanmoins, nous sommes toujours mal à l'aise pour essayer de cerner un problème aussi vaste et aussi complexe, et c'est pourquoi j'ai réuni aujourd'hui mon collègue Maurice Gravier, professeur à la Sorbonne, et mon collègue Einar Már Jonsson, lecteur d'islandais à la Sorbonne, afin d'essayer rapidement de faire le tour d'une question qui, bien entendu, mériterait une analyse bien autrement détaillée que celle que nous allons faire. Qu'est-ce qu'une saga? Que faut-il en dire? Le genre a-t-il évolué? Sur quel plan se situe l'intérêt majeur de ces textes-là? Quel intérêt peut-on retirer à la lecture de ces espèces de grands romans historiques? Voilà autant de questions que nous n'allons faire qu'effleurer, mais qu'il est bon de situer tout de même dans leur ensemble. Et d'abord, qu'est-ce qu'une saga? Disons tout de suite qu'une saga est un genre littéraire en prose. Qu'elle a vu le jour, peut-être déjà à la fin du XIIe siècle, en tout cas, sans aucun doute, au XIIIe siècle et encore au XIVe siècle en Islande. De quoi s'agit-il? Il s'agit de raconter les faits et gestes, soit des premiers grands colonisateurs de l'Islande. Nous savons que l'Islande a été colonisée à partir de 874 par des gens qui étaient norvégiens en majorité, danois peut-être, celtes encore. Il s'agit aussi de relater les hauts faits de rois norvégiens ou danois. Il s'agit encore de faire la chronique des Islandais du XIIe et du XIIIe siècle même. Et il s'agit encore de raconter des légendes qui courent dans toute la Germania et qui se sont conservées, miraculeusement peut-on dire, en Islande.
Je voudrais ajouter que le mot saga n'est pas du tout un mot univoque, il a beaucoup de sens différents. et que ça peut aussi signifier un conte, purement et simplement. C'est dans ce sens-là que le mot s'est spécialisé en suédois, par exemple. Mais c'est aussi le mot dont les Islandais, je crois, se servent pour désigner l'histoire, tout court.
Oui, le mot saga vient de la même racine que le verbe seja, qui signifie simplement dire et raconter.
Allemand sagen, sagen, du
moins. Bien sûr. Et le sens originel du mot saga, c'est simplement récit ou histoire.
Oui, d'ailleurs, vous êtes en train de cerner un des problèmes majeurs que pose d'emblée le genre, à savoir celui de l'ambiguïté de sa définition. Saga couvre aussi bien de l'histoire à proprement parler qu'une pure fable, ou encore qu'un genre intermédiaire entre les deux extrêmes que l'on vient de dire. Autrement dit, c'est poser d'emblée le problème de l'origine de ces textes en prose. C'est une querelle qui peut-être est un petit peu dépassée aujourd'hui, mais qui a fait florès fort longtemps. Les sagas doivent-elles être tenues pour relever d'une tradition purement orale, ou bien au contraire, est-ce là un genre uniquement écrit, où l'Église, qui a appris à écrire à tout le Nord, et donc à l'Islande aussi, jouerait un rôle éminent? Problème très vaste, en vérité, dans la mesure en particulier où les sagas reflètent à n'en pas douter de vieilles traditions pan-germaniques ou typiquement nordiques et fort anciennes. Je voudrais que on résolve très très vite ce problème-là. Pour nous, je crois, dans l'ensemble, le problème de leur origine écrite, majoritairement écrite, disons, ne fait guère de doute. On a beau avancer les strophes poétiques qui, de temps en temps, illustrent une saga, on a beau parler de la science généalogique qui est indispensable à la rédaction d'une bonne saga, on a beau parler de la constitution de petits récits très courts, ou hættir, dont pourraient être parties les sagas, il est sûrement plus simple de dire que si les sagas véhiculent dans leur contenu des thèmes et des récits qui certainement remontent à une tradition orale, par leur écriture, par leur science de la composition, par leur imitation ou leur élaboration à partir de modèles étrangers transmis par l'Église, ce sont bien des textes écrits.
Au sujet de l'origine des sagas, il y avait traditionnellement deux théories totalement opposées. Et pendant longtemps, la lutte entre les partisans de ces deux théories était presque aussi épique que les batailles dont parlent les sagas elles-mêmes. La première théorie, qui a été baptisée d'un nom allemand, la théorie du Freiprosa, maintenait que les sagas avaient été composées oralement, peut-être peu de temps après les événements dont les sagas parlaient, et qu'ensuite ces récits composés oralement avaient été transmis tels quels de génération en génération, jusqu'au moment où ces récits furent mis en écrit. Et selon cette théorie, le rôle des écrivains était presque nul, simplement à transcrire fidèlement les légendes. L'autre théorie, la théorie qu'on appelle aussi en allemand, la théorie du Buchprosa, maintenait que les sagas avaient été composées simplement par des vrais écrivains, qui étaient peut-être basés sur des vagues traditions, mais que les écrivains avaient surtout fait œuvre originale et composé presque des romans.
Oui, l'ennui, c'est que tous ces auteurs sont anonymes, oui. Sauf un, qui est parfaitement célèbre, du moins ailleurs qu'en France, et qui s'appelle Snorri Sturluson. Nous ne savons pas les noms des auteurs de ces textes-là.
Et un autre ennui, c'est qu'on ne peut pas savoir quelles étaient exactement les traditions orales avant. On ne connaît en fait que les textes écrits, et il est très difficile de conclure des textes écrits à des traditions orales.
Mais quand même, ce sont des textes littéraires, d'une part, c'est une chose certaine, qui représente un art assez évolué, et d'autre part, les personnages mis en cause et la trame générale des événements, appartient tout de même à l'histoire. Pour être un petit peu grossier, parlons des romans de Dumas père, et Richelieu est quand même un personnage qui a existé. Les personnages qui figurent dans les sagas, au moins dans une très forte proportion, ont effectivement existé. Et la trame générale est une trame qui appartient à l'histoire, mettons.
Oui, oui, absolument. Il faut dire d'ailleurs qu'une des originalités d'au moins une des classes de sagas, les sagas de famille, c'est que, un peu comme chez Balzac, les personnages reviennent d'un texte à l'autre et personne ne met en doute leur originalité, leur
c'est ça, les sagas se recoupent.
Et elles se recoupent. D'ailleurs, vous venez de parler d'histoire. Si nous croyons davantage à une origine écrite, disons, qu'à une origine orale des sagas, c'est aussi qu'on met de plus en plus l'accent sur l'existence incontestable, elle, d'une école historiographique extrêmement vivante et féconde en Islande dès le milieu du XIIe siècle, avec des gens comme Ari le savant ou comme Sæmundur le savant, dont on sait, pour Ari on a même conservé certains de ses écrits, qu'il s'appliquait à écrire de l'histoire comme le Moyen-Âge le faisait.
Pour l'histoire, au fond, les Islandais sont les pères de l'histoire rédigée en prose et en langue vulgaire.
Oui, c'est une de leurs originalités. Je ne veux pas m'attarder sur ce problème-là. Disons donc que ce sont des textes littéraires écrits. L'école savante islandaise actuelle est même en train d'essayer de cerner des écoles selon les scriptoria qui existaient dans les monastères du sud ou du nord de l'île, tracer les délinéaments de grandes tendances. Enfin, il ne semble guère faire de doute que ce soit là un genre écrit. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plusieurs sortes de sagas et que le genre a suivi une évolution assez caractéristique. Il a commencé probablement par des sagas dites royales qui, très curieusement, puisque les Islandais constituaient une manière de république ou d'oligarchie n'obéissant à aucun roi, de sagas qui tournaient autour des grands rois de Norvège et en particulier autour du fameux Saint Olaf, Olafur Haraldsson, Olaf le Gros, qui a eu droit à une bonne demi-douzaine de sagas, dont une magnifique de Snorri Sturluson. Je voudrais d'ailleurs, pour donner une idée d'emblée du ton, de l'atmosphère de ce texte-là, je voudrais vous faire entendre un petit passage très célèbre, de la saga de Olaf Tryggvason, Olafur Tryggvason. Le passage où le roi meurt à la bataille de Svolder, en Norvège, pour donner une idée du coup d'œil de l'auteur, qui est Snorri Sturluson en l'occurrence, dans son Heimskringla, et aussi de l'espèce d'économie, de resserrement, de laconisme qui est tellement caractéristique de la vision du monde de ces gens-là.
Einar, ce coup pense, était à l'arrière du serpent, le bateau du roi. Il tirait de l'arc. C'était le plus grand archer qui fût. Il tira sur le Jarl Eirik et atteignit le haut du gouvernail au-dessus de la tête du Jarl. La flèche y pénétra sur toute la pointe. Le Jarl vit cela et demanda si l'on savait qui tirait là. Mais aussitôt, une seconde flèche arriva si près du Jarl qu'elle lui passa entre le flanc et le bras et ricocha sur l'appui-tête, de telle sorte que la pointe sortit de l'autre côté. Alors, le Jarl dit à l'homme que certains appellent Finn, mais certains disent qu'il était finnois, c'était un très grand archer. Tire sur ce grand homme, là-bas, à l'arrière. Finn tira, et la flèche arriva en plein milieu de l'arc d'Einar au moment précis où celui-ci le bandait pour la troisième fois. Alors, l'arc d'Einar se brisa en deux morceaux. Le roi Olaf dit « Qu'est-ce qui vient de craquer si fort ?» Einar répond « C'est la Norvège qui vient de te craquer entre les mains, roi. Cela ne fera pas un si grand craquement, dit le roi. Prends mon arc et tire. » Et il lui jeta son arc. Einar le prit et le banda aussitôt jusqu'à la pointe de la flèche, mais il dit « Trop faible, trop faible, l'arc du souverain !» Et il renvoya l'arc, prit son écu et son épée, et se battit.
C'est la première catégorie. On peut postuler que, simultanément, ensuite, il ne faut pas prendre cette énumération de catégories de sagas dans un sens trop strictement chronologique. Il est bien possible que tous les genres que je vais énumérer aient vu le jour plus ou moins simultanément. Mais enfin, si on veut introduire tout de même une espèce de gradation, viendraient en second lieu les sagas de contemporains, Samtidarsögur, c'est-à-dire les sagas qui sont des sortes de chroniques, des événements contemporains des auteurs. Ici, nous connaissons quelques auteurs. Nous pouvons, par recoupement, vérifier les événements qui sont racontés. Le chef-d'œuvre du genre est la Sturlunga saga, la saga des Sturlungar, turbulente famille qui a régenté les destinées de l'île pendant presque un siècle jusqu'à la fin de la République en 1264. Et ces sagas contemporains vont de pair avec ce qui pour nous reste aujourd'hui le fleuron du genre, c'est-à-dire les sagas des Islandais, Islendingasögur, ou encore sagas de famille. C'est là que se placent tous les grands chefs-d'œuvre, saga de Njal, Laxdaila saga, saga de Snorri Goddi, saga de Grettir le Fort, saga du Skald et Hitl Skallagrimson, etc., etc., sans oublier la saga d'Éric le Rouge. Puis ensuite, on peut admettre que viendraient des sagas plus légendaires, peut-être par épuisement de la matière. Les sagas, les grandes sagas de famille, se concentrent sur les principaux colonisateurs de l'île, des gens qui ont vécu au Xe siècle par conséquent. Alors on peut supposer que le tour ayant été fait, les auteurs se sont mis en quête de sujets plus anciens, plus légendaires, qu'ils ne tenaient pas de manière aussi directe à la matière islandaise elle-même. Ce sont les Fornaldarsögur, les sagas légendaires, dont certaines également sont très célèbres, celles qui mettent en scène le fameux Ragnar Lodbrok ou le fameux Oddur l'Archer, etc., etc. Puis, en dernier lieu, viendraient les sagas dites de chevaliers, Riddarsögur, qui sont des adaptations, plus que des imitations, de romans courtois ayant cours en France ou en Allemagne à la même époque, donc 13e et 14e siècle, notamment les romans de Chrétien de Troyes. Saga royale, saga de contemporain, saga de famille, saga antique et saga de chevalerie, je crois que j'ai fait le tour. Il s'y ajoute d'ailleurs de plus brefs récits qui ont la même forme et les mêmes qualités que les sagas et qu'on appelle Thaitir, dont j'ai déjà dit un mot tout à l'heure, qui traitent les mêmes sujets.
Il est incontestable que les sagas royales sont les plus anciennes, et c'est d'ailleurs les sagas royales qui ont le plus de rapport avec la géographie et l'historiographie européenne, occidentale de cette époque.
C'est visible pour Saint-Olaf, qui était à la fois un roi et un saint.
Il y a des efforts de chronologie qui sont intéressants, si je comprends, pour essayer de mettre en harmonie ce qui existe.
Oui,
sur le continent et dans votre île.
Oui, ça c'est tout à fait vrai. Parce qu'à l'origine, avant les sagas, il y avait, chez les vrais historiographes comme Ari le Savant, une tentative d'établir un schéma chronologique qui couvre toute l'histoire. Et une partie de la première œuvre d'Ari le Savant, qui est malheureusement perdue aujourd'hui, était simplement un schéma chronologique. Et notamment, il n'y avait pas de date à partir de l'instance du Christ, mais une sorte de schéma relatif qui donnait le nombre d'années qu'a régné tel ou tel roi. Et les sagas islandaises s'insèrent dans ce schéma chronologique.
Il y a un effort de chronologie qui est frappant.
Oui.
En ce moment, à partir de la chronologie interne des textes et aussi par recoupement, comparaison surtout avec l'historiographie médiévale dans son ensemble.
Mais le schéma chronologique d'Ari le Savant est un schéma original. C'est un gros problème de savoir maintenant si ça correspond ou non à la réalité. Et il est sûr, par exemple, qu'il faut l'abréger aux origines d'une vingtaine d'années, n'est-ce pas? Il faut le décaler d'une vingtaine d'années. Mais ce schéma fournit la chronologie dans laquelle s'inséraient les sagas des Islandais, composés plus tard, qui s'insèrent dans un schéma chronologique tout fait.
Nous ne pouvons donner qu'une faible idée de la réalité. Ici même, il faut bien dire qu'il faut lire une saga pour essayer de pénétrer cet étrange mixte qui fait qu'on peut aussi bien adopter sans réserve l'image de la réalité qu'elle donne et émettre des réserves, au contraire, très graves et dire que tout est là pure fiction.
On peut comprendre que les gens aient été tentés d'y voir de la réalité, car s'il y a une littérature qui semble réaliste, c'est bien celle-là.
Alors justement.
Sa sécheresse et sa volonté d'objectivité apparente, mettons.
Justement, je trouve que le problème qui devrait nous retenir un petit peu plus maintenant, c'est celui du réalisme, de l'authenticité, de l'image que les sagas donnent de la réalité. Et je vous propose de le traiter sur trois plans. Les sagas sont-elles des documents historiques? Les sagas sont-elles plus généralement des œuvres historiques qui relèveraient d'une certaine vision de l'histoire? Et en dernier lieu, sur le plan religieux, sur le plan du paganisme par exemple, est-ce qu'elles peuvent nous apporter quelque chose d'intéressant pour la connaissance de la mentalité germanique et nordique ancienne? C'est-à-dire, en cernant le problème de fiction et réalité dans les sagas, à partir de ces trois incidences-là, on devrait arriver, me semble-t-il, à des conclusions assez intéressantes.
La réalité auquel pensent les gens qui écrivent, dont nous ne savons toujours pas qui y sont, ne sont-ils pas tentés de représenter la vie quotidienne des conquérants de l'île sous la couleur et avec des détails de mœurs qui sont celles de leur temps et
c'est
non
ça.
Pas
C'est exactement poser le problème comme il faut. Il faut comprendre que, pour la plupart, les sagas se déroulent au Xe siècle et ont été rédigées trois siècles après, au XIIIe siècle. En sorte que, il va de soi que les auteurs ont voulu projeter sur un passé de trois siècles la mentalité qu'ils avaient eux-mêmes.
Les personnages de Racine sont censément des Grecs contemporains d'Achille ou d'Hector, et ils parlent comme des courtisans de la cour de Louis XIV. Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de projection des mœurs du XIIIe sur
celles
du XIe?
C'est certain. Quand Snorri Sturluson décrit, par exemple, un détail comme l'habillement de Eyskar Lagerson, il décrit en fait, ne pas l'habillement contemporain, mais l'habillement le plus ancien qu'il a lui-même connu, n'est-ce pas? L'habillement de son père ou son grand-père.
C'est pourquoi il faut dire, enfin, on peut cerner le problème tout de suite, on peut aller au fond. Ce sont des documents historiques dans la mesure où elles révèlent une mentalité du XIIIe siècle. Maintenant, est-ce que ce sont des documents historiques dans la mesure où elles révèlent une réalité du Xe ou XIe siècle? C'est plus douteux, je crois.
Il est absolument sûr qu'un très grand nombre des personnes dont parlent les sagas ont existé réellement et qu'il y a eu des traditions orales avant. Et il est extrêmement important d'essayer de cerner de plus près ces traditions orales. On peut les diviser en plusieurs parties. Et en premier lieu, il faut évidemment citer les généalogies qui donnent les informations sur les personnages et leurs relations avec d'autres.
Est-ce qu'on peut compter là-dessus? Parce qu'on m'a raconté toujours qu'en Islande, il y avait un meuble inutile dans chaque famille, c'était la généalogie.
Et justement, c'est intéressant parce que au XIIIe siècle, une généalogie n'était pas un objet de musée comme elle pourrait être aujourd'hui.
Non, vous avez parfaitement raison.
Une généalogie avait une grande importance sociale et juridique.
Ça authentifiait quelque chose.
Ça servait par exemple à authentifier un titre de propriété foncière.
Mais oui, bien sûr. Et pour contrecarrer la boutade de Maurice Gravier, il faut rappeler que la famille est fondée en religion. C'est une chose sacrée
et
autrefois.
Même, on peut dire que ça servait à savoir pour chacun quelles sont les relations exactes qu'il a avec tel ou tel autre personnage. Et la chose est tellement importante que la législation scandinave islandaise stipulait, paraît-il, que chaque homme libre devait connaître sa propre généalogie jusqu'à un certain point.
Et il la connaissait, semble-t-il.
Sans aucun doute. Du moins, d'après les textes.
Il semble.
Oui, ça... C'est un peu les histoires des Martins et des Blaise dans nos campagnes, il n'y a encore qu'un demi-siècle, n'est-ce pas?
Mais la généalogie n'est pas transmise toute seule. Avec les généalogies, viennent aussi des informations, par exemple topographiques, sur les lieux d'habitation de chaque ancêtre.
Et éventuellement aussi, sur les hauts faits de tel...
Oui, éventuellement, les hauts faits et des diverses anecdotes.
Si l'on parle d'aspect documentaire, en voilà un qui probablement semble solide. Mais nous avons étudié ici même, il y a quelques semaines, la fortune d'un thème, la découverte de l'Amérique du Nord par les Vikings. Nous avons été forcés de conclure, à 4 ou 5 spécialistes présents, que nous ne pouvions pas dire si c'était vrai ou si ce n'était pas vrai. Il y a un mélange extrêmement subtil d'élaboration à partir de traditions qui peut-être sont...
Qu'est-ce qui est vrai? C'est une question de dosage, évidemment.
C'est ce qui fait le charme de ce genre de littérature.
Mais là, les généalogies, ce n'était pas la seule tradition. Il y avait une autre qui était au moins aussi importante, c'était la loi, qui était transmise à l'origine oralement. Et la loi...
Mais si on peut transmettre la loi oralement, on peut transmettre
on devrait pouvoir tout transmettre.
Historique.
Mais
c'est vrai,
la loi était une sorte de prose rythmée, et même, même une sorte de moitié de poétique, et qui était d'abord transmise oralement, et même dans la République islandaise ancienne, il y avait une institution particulière pour assurer la transmission orale de la loi.
Oui, c'était cette espèce de président de la République qui s'appelait le Xagumaler.
Qui était surtout atteint de psittacisme, si je comprends bien.
Oui, ben, sa fonction était de réciter la loi complète en 3 ans.
Il assurait donc par là la transmission orale correcte. Et même quand les lois avaient été mises en écrit, le Xagumaler continue à exister comme une sorte de...
De dictionnaire, d'ouvrage de référence.
Oui, c'est ça.
On venait consulter en cas de besoin. Oui.
Mais il est sûr qu'avec les lois, il y avait aussi toute autre connaissance juridique et historique qui était transmise.
Oui. Disons que les généalogies et les lois constituent une base certaine, une base authentique. À partir de là,
Et puis les poèmes skaldiques, la poésie en général,
est une troisième tradition aussi importante.
Comment peut-on distinguer le vrai du faux, là? Parce qu'on peut fabriquer aussi...
On a des exemples dans la fameuse saga de Gisli Sursson, qui a beaucoup été étudiée ces dernières années. On sait très bien maintenant que ça a été fabriqué. Dans la saga des frères jurés aussi.
Mais la poésie pose un problème tout à fait différent, parce que la poésie, en tout cas la poésie skaldique, suit des règles extrêmement contraignantes et précises.
Oui, d'accord, mais on peut très bien en refaire.
Mais c'est très facile en théorie. Mais il ne faut pas oublier...
C'est comme le Minesa.
Oui, mais il ne faut pas oublier qu'en trois siècles, la langue change.
Oui.
Or, les gens du XIIIe siècle n'étaient absolument pas conscients de ces changements linguistiques, ou très peu conscients.
Oh, ils pouvaient faire de l'archaïsme.
Ils ne pouvaient pas savoir certains changements phonétiques que les savants modernes connaissent bien.
Oui.
Et par conséquent, il est assez facile, dans certains cas, de distinguer le vrai et le faux.
Parce que
on voit les rimes intérieures, on sait si ces rimes pouvaient marcher au XIIIe siècle ou non.
Oui.
Et par conséquent, là où il y a un moyen d'authentification...
De technique du vers.
Ces vers étaient transmis par les poètes, plus ou moins professionnels, qui voulaient à la fois avoir une connaissance simplement pour montrer aux gens, pour amuser les gens, mais aussi c'était pour une connaissance, un modèle pour leur propre poésie.
Donc
c'était transmis.
Je voudrais ajouter deux choses. C'est que nous sommes en train de découvrir peu à peu que les historiens, comme Snorri Sturluson par exemple, avaient aussi une philosophie de l'histoire, et qu'il faut en tenir compte pour dégager l'historicité éventuelle des textes. Et puis je voudrais encore ajouter que sur le plan religieux, par exemple. Il y a des textes comme la saga Snorri Goði qui paraissent à première vue une sorte de mine de survivance païenne, mais on les démonte assez facilement pour voir qu'il s'agit d'une sorte de reconstitution. La référence à Alexandre Dumas père que Maurice Gravier donnait tout à l'heure me semble très très bonne. Ils ont travaillé sur un certain nombre d'éléments. En structure profonde, il y a les lois, il y a les généalogies, il y a certaines strophes skaldiques, d'accord, mais pour le reste, il y a un gros effort d'affabulation. Je voudrais maintenant m'attaquer d'un tout petit peu plus près à la valeur littéraire des sagas. Je tiens, enfin nous tenons tous, que ce sont des chefs-d'œuvre littéraires, que ce sont des œuvres qui valent la peine d'être lues après un minimum d'initiation qui n'est pas hors de portée de l'honnête homme. Et en somme, c'est plutôt cela, je trouve, qui attire l'attention et l'intérêt aujourd'hui, ce genre littéraire des sagas, ce mixte réussi. On peut, si vous voulez... parler un petit peu du contenu lui-même. Nous venons d'évoquer le fond historique. Les faits évoqués, les lieux, les personnages principaux ont dû exister. Il s'y est ajouté l'adaptation d'un certain nombre de modèles littéraires transmis par l'Occident, par le biais de l'Église, ça me semble clair. Et puis il y a, pour fondre tout cela, pour amalgamer cela en un ensemble recevable et qui séduise l'auditoire, il y a un art conscient, un style extrêmement élaboré, une science de la composition. C'est surtout sur le fond, d'ailleurs, que je voudrais que nous nous attardions un petit peu. Ici, les opinions ont varié. On a pris les sagas pour des textes épiques, et puis, dans une autre acception, on les a vus exclusivement dramatiques à cause de la science très sûre du dialogue qu'elle présente. Ouais, ce qu'il faut dire, sans descendre dans le détail, c'est que ce n'est pas fiction pure. Ça, c'est une évidence. Je crois que vous êtes d'accord tous là-dessus. Ce n'est pas fabulation gratuite. Il y a une base derrière. Il y a toute une civilisation dont les sagas sont un reflet tangible et plus ou moins fidèle. Ça me semble une évidence. Mais il y a aussi une vision du monde, il y a aussi un arrangement qui est l'effet de l'art et qui, pour un lecteur moderne, me semble tout aussi intéressant que les réalités qui sont derrière. C'est-à-dire, ce sont des textes qui admettent plusieurs lectures, comme on dit maintenant. On peut aller y chercher une réalité historique partielle, on peut aller y chercher une vision du monde datée, médiévale, et on peut aller y chercher un art, un style, une composition.
Et qui marquera la Scandinavie à tout jamais.
Qui la marquera tellement qu'il n'est pratiquement pas de grands écrivains scandinaves, suédois, danois, norvégiens aujourd'hui qui finissent par ne se réclamer d'une manière ou de l'autre des sagas dans sa façon d'écrire. Si l'on parle de l'inspiration, je voudrais mettre l'accent sur le fait que ce sont des œuvres fortement, consciemment et magnifiquement tragiques, les sagas islandaises. C'est-à-dire qu'elles me paraissent faire jouer à merveille le bon vieux ressort aristotélicien de la terreur ou de la pitié, ou en d'autres termes, qu'elles s'entendent à montrer des passions en lutte. les grands personnages de saga sont des forces qui vont, comme dirait Victor Hugo s'il les avait connus.
Et en Islande.
Et oui, bien, enfin, dans Islande, il n'y a vraiment que le mot Islande qui témoigne d'une connaissance hugolienne de la chose, malheureusement, je regrette de le dire. Des personnages qui vont, qui sont en lutte, qui essaient d'affirmer leur personnalité contre vents et marées, qui essaient d'illustrer une éthique que nous allons retracer brièvement, si vous voulez. Des œuvres tragiques, parce qu'il y a toujours mort d'hommes ou de femmes, parce que finalement, le destin finit par imposer sa loi, comme il est logique.
Elle retrace la lutte tragique d'un homme avec le destin inexorable.
Oui, c'est une façon de voir.
Et c'est la lutte d'un homme qui n'a pas lui-même mérité un destin tragique, qui est souvent un personnage de grande valeur morale et qui a tout fait pour essayer de contourner ce destin et qui finalement l'accepte.
J'ajouterai une chose quand même, pas seulement un homme, aussi une femme. Il y a des héroïnes de saga et le féminisme peut dire que On commence déjà avec la saga.
Dans ce que vient de dire Abraham Williamson, il y a une chose qui est évidente, c'est que le destin est omniprésent et tout-puissant. Seulement, je voudrais mettre un petit peu plus l'accent sur un caractère qui, pour un Français, mérite d'être souligné, parce que ce caractère se retrouve, il me semble, à l'état pur dans les tragédies de Corneille, par exemple. Mmh. Corneille qui est un Normand, peut-être un descendant de Viking, par conséquent. C'est que le destin n'est pas une fatalité aveugle, écrasante et méchante comme chez les Grecs anciens, par exemple. Ce n'est pas non plus une espèce de deus ex machina parfaitement indifférent aux destinées humaines, comme dans certaines littératures orientales. C'est une force, comme vous venez de le dire, Reynard, l'homme prend conscience qu'il accepte et qu'il décide d'assumer. C'est-à-dire, c'est un destin vécu, accepté, pris en charge, diraient les existentialistes aujourd'hui. Le héros de saga est un homme qui se prend à son compte et qui accepte la coloration particulière du destin et qui décide de la pousser jusqu'au bout. Une des caractéristiques des sagas, à savoir que le destin se manifeste à tout moment pour éclairer chaque individu sur ce qui l'attend, par le moyen de rêves, par le moyen de visions, par le moyen de prédictions des hommes dits sages, par l'opinion courante. Chaque personnage principal sait très bien ce qui va arriver.
Les prédictions sont aussi un des éléments frappants dans la saga, et ces prédictions, malheureusement, quelquefois, sont assez ambiguës. Et l'ambiguïté dans l'expression me semble un des traits de cette langue islandaise ancienne.
Ah, mais ça a toujours été mon avis, mais il faut demander à Einar ce qu'il en pense.
Moi, je pense à l'oracle de Delphes, enfin, qui était un peu islandais sur les bords.
Pourtant, ce que dit M. Boyer est tout à fait vrai. Les héros principaux sont toujours au courant du destin. Ils savent ce qui les attend, même quand l'oracle...
Ils ont la chance.
Ça, c'est pas de l'oracle, ce sont des rêves...
Ou la malchance.
Prémonitoires, des visions. Même quand ces rêves ou ces visions sont ambiguës, les héros savent ce qui les attend, et ils l'acceptent.
Oui, et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ils mettent leur honneur à ne pas démériter, à ne pas déroger. Ils sont avertis de leur destin.
Ils tiennent bien leur rôle.
Oui, c'est ça. Leur honneur pour eux, c'est de rester fidèle à ces dictates, il faut dire, du destin. Assumer son destin, dans les conditions qu'on vient de dire, c'est en quelque sorte la définition du tragique particulier aux sagas islandaises et certainement ce qui fait leur prix. D'un autre côté, rester fidèle à cette image que le destin veut qu'ils se fassent d'eux-mêmes et qu'ils incarnent, c'est donc avoir le droit d'exercer la vengeance sur tous ceux qui voudraient bafouer la plus haute opinion qu'ils se font d'eux-mêmes. On pourrait aussi se concentrer un petit peu sur le style, parler un peu du fameux style de saga pour voir qu'il colle parfaitement à cette vision de la vie, à cette conception du destin. Le style de saga peut se définir en 3 ou 4 mots. C'est un style d'un réalisme appliqué, d'un dynamisme assez remarquable si l'on pense que ce sont des œuvres du XIIIe siècle. Un style d'une concision qui aujourd'hui encore force l'admiration et qui ne dédaigne pas de pratiquer un certain type d'humour. Mais un style réaliste avant tout.
Ce qui m'a toujours frappé, c'est la rapidité avec laquelle, au détour d'une ou deux phrases, il meurt 3 personnages, il en est 2, et il y a 1 ou 2 mariages qui réussissent ou qui manquent.
C'est ça, il y a une pratique du laconisme, de la litote, de ce que les Anglais appelleraient understatement, qui est quelque chose d'absolument inimitable, je crois. qui ne se retrouve nulle part ailleurs, en fait.
Oui, le style est extrêmement, disons, sec. Il n'y a pas de rhétorique, il vise à donner le maximum d'informations sans aucun...
Dans le minimum de mots.
Oui, sans aucune digression. Il n'y a pas de description du tout, pas de description inutile. Les seules descriptions de la nature sont figurent lorsque c'est vraiment nécessaire pour expliquer l'action. Autrement, il n'y a rien, il n'y a aucune poésie inutile.
Aucun dialogue inutile.
Oui, aucun dialogue inutile. Et les phrases sont très brèves en général.
Ah ben je crois que ces qualités de style culminent dans l'art du dialogue, précisément. Il y a des dialogues, en particulier la saga de Njartl, qui sont des merveilles.
Des répliques
avec suppression de tout ce qui est inutile.
Absolument.
Ouais, passe au style indirect dès qu'on peut résumer.
En somme, d'ailleurs, pour retrouver la querelle que nous évoquions au début, des dialogues trop beau pour être vrai, mais enfin, c'est tout de même cela le mérite du style de saga. C'est ça qui donne l'illusion de cette prétendue objectivité qui force l'admiration.
Ce qui caractérise aussi le style, c'est l'ironie constante. L'humour glacé, l'ironie est...
L'ironie à froid, n'est-ce pas?
Ambiguïté aussi, des diverses choses. Et pour comprendre une saga, une épisode d'une saga, il faut très souvent lire entre les lignes.
Eh oui. Mais d'ailleurs, à propos d'ironie, ou d'humour, comme vous voudrez, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter un petit passage de Ljósvetninga saga, ce fameux dialogue entre Ófeigur et Guðmundur. Ófeigur est un grand chef. Guðmundur a pris la place d'honneur qui revenait à Ófeigur. Et vous allez voir comment Ófeigur démontre à Guðmundur que c'est à lui, Ófeigur, que revient la place d'honneur et non pas à ce jeune blanc-bec de prétentieux.
Quand on eut apporté les tables, Ófeigur posa son poing sur la table et dit « Ne penses-tu pas que ce poing est énorme, Guðmundur ?» Guðmundur répond « Pour être énorme, il l'est. » Ófeigur dit « Crois-tu qu'il y ait de la force dans ce poing ?» Guðmundur dit « Sûr que je le crois. » Ófeigur dit « Crois-tu qu'il pourrait asséner un terrible coup ?» Guðmundur dit « Terrible, assurément. » Ófeigur dit « Quelle sorte de tort crois-tu qu'il en résulterait ?» Guðmundur dit « Des os brisés ou la mort ?» Ófeigur dit « Que penserais-tu d'une mort de ce genre-là » Guðmundur dit « J'en pense grand mal. Je ne voudrais pas mourir de la sorte. » Ófeigur dit « Alors, ne t'assieds pas à ma place. » Guðmundur dit « Tout à fait d'accord. » Et il alla s'asseoir de l'autre côté de la table.
Comment conclure sur ces vues très brèves, très rapides que nous avons données des sagas islandaises ? Il me semble qu'il conviendrait, qu'il est bon, qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la valeur humaine de ces textes-là. Nous avons évoqué leur valeur historique possible, nous avons évoqué très rapidement, c'est presque du massacre, leur qualité de style et de composition. Insistons un tout petit peu sur le fait qu'un homme du XXe siècle, dans quelque pays que ce soit, a quelque chose à tirer de la lecture d'une saga, qu'il y trouvera l'expression d'un idéal de vie propre à séduire des esprits modernes. C'est un aspect sur lequel je tiens beaucoup à mettre l'accent. En somme, cet idéal de vie relève à la fois d'un héroïsme bien tempéré et d'une vision qui me paraît équilibrée du monde. C'est cela que je voudrais que nous développions un petit peu maintenant. Qui lit une grande saga et même un des petits textes, il n'y a pas de nuance sur ce point, il trouvera en effet l'expression d'un idéal héroïque sans outrance, sans excès, sans hyperbole. À la différence de nos chansons de gestes, on n'y trouve pas de prouesse, on n'y trouve pas de merveilleux au sens médiéval du texte. On y trouve au contraire, me semble-t-il, des hommes énergique, dynamique, qui prise très fort les qualités d'audace et d'entreprise, qui tiennent avant tout à mettre en avant leur individualité, à défendre sa dignité, sa réputation. On n'y trouve rien d'invraisemblable ni de fabuleux. Je voulais mettre l'accent simplement sur le fait que ce genre de texte cherche à tester, on dirait aujourd'hui, la valeur d'un individu. Ils appellent ça « skaprøyne », à voir de quoi il est capable, à voir s'il mérite sa réputation, à voir jusqu'où il ira.
De quelle trempe il est fait, en effet.
Je comprends, bien sûr. Mais enfin, tout de même, nous n'avons peut-être pas envié entièrement les mœurs de ce Moyen-Âge-là.
Ah non, c'est pas...
Quoique, au point de vue de la violence, nous en connaissions un bout aussi.
Oui, effectivement, il ne faut pas se voiler pudiquement la face à bien des aspects. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on attend d'un homme qu'il soit égal à lui-même. On n'attend pas de lui qu'il fasse des choses fantastiques ou bien qu'il se conduise avec une veulerie incomparable. On attend qu'il se tienne non pas exactement dans un juste milieu, on est quand même dans un registre assez héroïque, mais qu'il n'aille pas jusqu'à la démesure. Ce qui s'inscrit sur le plan des mœurs générales, c'est autre chose, me semble-t-il. Enfin, ils ont aussi un mot, drengskapur, n'est-ce pas, qui est une sorte d'équivalent de... On ne peut pas traduire ça par chevalerie, mais disons courage, loyauté, fidélité.
Et honneur.
L'idéal de l'honnête homme pour ce temps-là.
Sans doute, je trouve. Et ça coïncide avec leur vision du monde, une vision du monde qui est équilibrée, que vous trouverez peut-être dépourvue d'idéalisme, dépourvue de romantisme, en tout cas, ça, il ne faut pas en douter. Une vision du monde où compte avant tout la lucidité, le pragmatisme, ce qui fait que, somme toute, à des siècles de distance, à 8 siècles de distance, 7 siècles de distance, je suis toujours frappé par la solidité humaine de ces hommes et de ces femmes. Disons, si vous voulez, pour conclure, et avant d'écouter une des plus belles pages de toute la littérature de saga, la mort absolument héroïque de Gunnar de Hlíðarendi. Il est attaqué dans sa maison par des ennemis en nombre supérieur, il se défend bravement, il pourrait continuer à survivre, il a besoin de sa femme à ce moment-là. Il a malheureusement giflé sa femme quelques années plus tôt et sa femme se venge en refusant de l'aider, si bien que Gunnar va mourir écrasé sous le nom. Mais voilà une page parfaitement héroïque et idéale, voilà une page qui, sous une autre plume que celle de l'auteur de la saga de Njartl, pourrait donner lieu à toutes les dithyrambes et toutes les hyperboles rêvées. Je voudrais simplement insister, pour finir, sur la mesure, sur la discrétion, et puis je n'hésite pas à lâcher le mot, sur la pudeur de cette peinture héroïque.
Alors, ils attaquèrent les maisons. Gunnar leur lança des flèches et se défendit bien, et ils ne purent rien faire. Quelques-uns sautèrent sur les maisons avec l'intention d'attaquer de là. Gunnar leur décocha des flèches et ils ne purent rien faire. Cela dura ainsi un moment. Gunnar dit: il y a une flèche, là dehors sur le mur. C'est une de leurs flèches, et je vais la leur renvoyer. Quelle honte pour eux s'ils sont mis à mal par leurs propres armes. Sa mère dit: ne t'aventure pas à les relancer alors qu'ils viennent d'abandonner. Gunnar saisit la flèche et la leur lança. Elle atteignit un homme et lui fit une grave blessure. J'ai vu sortir un bras, dit Gissur. Il portait un bracelet d'or, et il a pris une flèche qui se trouvait sur le toit. On ne chercherait pas de munitions dehors s'il y en avait dedans en abondance. Et il faut que nous attaquions maintenant. Ils reprirent alors l'attaque, mais Gunnar tira alors si bien de l'arc qu'ils ne l'atteignirent jamais. À ce moment-là, Thorbrand Thorleiksen bondit sur le toit et trancha la corde de l'arc de Gunnar. Ce dernier empoigna sa hallebarde à deux mains, lui fit rapidement face, le transperça et le rejeta du toit. Alors, Asbrand, frère de Thorbrand, sauta sur le toit. Gunnar lui donne un coup de hallebarde. Asbrand se protégea de son écu. La hallebarde transperça l'écu et arriva entre les avant-bras. Gunnar imprima alors une violente torsion à la hallebarde, si bien que l'écu se fendit, que les avant-bras se brisèrent et qu'Asbrand retomba du toit. Gunnar avait déjà blessé 8 hommes et en avait tué 2. Alors, il fut blessé à 2 reprises. Et tout le monde dit qu'il ne broncha ni devant les blessures ni devant la mort. Il dit à Hallgerd, sa femme, « Donne-moi 2 mèches de tes cheveux et tresse-les, toi et ma mère, pour en faire une corde pour mon arc. »« Cela est-il important pour toi ?» dit-elle. « Il y va de ma vie, » dit-il, « car ils ne mourront pas tant que je pourrai me servir de mon arc. »« Alors je vais, » dit-elle, « te rappeler la gifle que tu m'as donnée il y a 4 ans, et cela m'est bien égal que tu te défendes plus ou moins longtemps. » « Chacun a sa façon d'acquérir de la renommée, » dit Gunnar, « et je ne te le redemanderai pas. » Ranveig, la mère de Gunnar, dit « C'est mal te conduire, Hallgerd, et ta honte vivra longtemps. » Gunnar se défendit bien et vaillamment et fit à 8 autres hommes de si graves blessures que beaucoup faillirent en mourir. Gunnar se défend jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement. Ils lui firent alors maintes grandes blessures, et pourtant, il parvint encore à leur échapper et se défendit longtemps. Cependant, le moment arriva où ils le tuèrent.
Les sagas islandaises par Régis Boyer, professeur de civilisation scandinave à Paris 4. Maurice Gravier, professeur de langue et de littérature scandinave à Paris 4, directeur de l'Institut d'études scandinaves. Einar Mao Jonsson, lecteur d'islandais à Paris 4. Texte lu par Jean Bollery. Bibliographie. Régis Boyer, Les sagas islandaises, édition Payot. Peter Alberg, The Icelandic Saga, édition Nebraska. Aux éditions Houbier, la saga d'Éric le Rouge, la saga de Snorri le Godi, la saga de Njal le Brûlé. Réalisation, Anne-Marie Abou.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 avril 1978.